Alors, chers frères et sœurs, on est habitués, mais Jésus a des paroles fortes. Vous savez qu'aujourd'hui, à juste titre, d'ailleurs, on parle beaucoup de signes de reconnaissance, de dire merci, de reconnaître les choses qui sont bien faites, de dire merci. Et Jésus se contente de dire, mais vous n'êtes que de simples serviteurs, n'en demandez pas plus. N'oublions pas cependant que quelques chapitres auparavant, il y a une parole de Jésus qui ressemble étrangement à celle d'aujourd'hui, mais ce n'est plus le retour des ouvriers qui viennent à la maison et qui pourraient penser qu'on les remercie, mais non, on leur dit « vous avez fait juste ce que vous deviez faire ». Il y a un autre épisode dans le chapitre 12 de Saint-Luc où c'est le maître de maison qui revient et qui dit à ses serviteurs « mettez-vous à table et c'est moi qui vais vous servir ». Exactement comme Jésus un jour a servi ses disciples en prenant le vêtement du serviteur et en lavant les pieds. La Bible est remplie de ces paradoxes où à la fois Jésus nous dit « Vous n'êtes que de simples serviteurs, n'en demandez pas plus, vous avez fait ce que vous deviez faire. » Et d'autres endroits où Jésus nous fait comprendre que Dieu lui-même est à notre service et qu'il est venu pour nous servir. Nous servons Dieu et nous sommes appelés à servir nos frères et nos sœurs jusqu'à notre dernier souffle parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu se fait serviteur de notre humanité. Il est venu pour nous servir puisqu'il nous a créés et qu'il est venu pour nous sauver. Il y a plus de 30 ans, quand j'étais tout jeune séminariste, j'avais un père spirituel d'un certain âge, un homme qui avait traversé tant et tant de joie et de peine, et qui m'avait dit ceci, « François, prépare-toi, le grand combat de ta vie sera le combat de la foi. » Et vous savez, quand on est jeune séminariste, un peu comme quand on est jeune fiancé, on a le cœur enflammé, et la foi ne semble pas être une difficulté. Eh bien, des années plus tard, après 25 ans de sacerdoce, mais je pense que le père Christian pourrait dire la même chose. Et tous, plus nous avançons en âge, plus nous nous rendons compte qu'effectivement, la foi est un don de Dieu, mais qu'elle n'est pas automatique et que nous traversons tous, à des moments de nos existences, des moments où la foi est éprouvée. Qui n'a pas été éprouvé dans sa vie de foi ? Et en vous regardant, et je ne vous connais pas, c'est un peu ce qui est compliqué quand on est vicaire général, c'est qu'on passe un dimanche sans connaître la communauté, ce que le père Christian connaît beaucoup mieux depuis tant d'années. Il ne sait pas ce qui est en ce moment dans vos cœurs, mais il sent beaucoup mieux que moi l'état d'une communauté. Alors un jour, j'espère que je viendrai passer une semaine ici pour visiter, comme j'ai commencé à le faire dans 6 ou 7 paroisses de Paris où on visite. Mais voyez, je suis sûr, même sans vous connaître, que certains d'entre vous, en ce moment même, sont portés par leur foi, n'ont pas de doute, et que certainement d'autres, en ce moment même, se posent des questions, parce qu'ils sont éprouvés personnellement, dans leur santé, dans leur travail, ou dans leur famille proche, ou dans leurs parents, ou chez leurs enfants. Parce qu'ils sont éprouvés parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Vous avez entendu la lecture du prophète Habacuc qui proteste à l'égard de Dieu en disant « Mais Seigneur, combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes ?» Quand on voit tous ces drames qui se déroulent sous nos yeux, ces guerres qui, semble-t-il, ont commencé avec la création du monde, avec le meurtre d'Abel par Caïn, ces guerres qui ne cessent d'engendrer la violence, violence qui elle-même engendre guerre sur guerre, tant de gâchis, tant de choses qui peuvent éprouver notre foi. Que fait le Seigneur ? Seigneur, vais-je t'appeler sans que tu entendes ? Crier vers toi violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Nous aussi aujourd'hui, nous voyons le mal, nous regardons la misère et Nos forces sont trop petites pour changer cela complètement, même s'il faut y mettre tout notre cœur. Et nous disons, mais Seigneur, pourquoi ne fais-tu rien ? C'est ce grand cri qui traverse nos cœurs, qui traverse toute l'histoire de la Bible, car le scandale des scandales, d'une part, c'est certes la souffrance, surtout la souffrance à l'égard de l'innocent, mais c'est aussi ce mystère de Dieu qui reste en silence devant le mal qui se déchaîne dans le monde. Et je ne sais pas si Habacuc a été satisfait de la réponse du bon Dieu, qui lui dit simplement « Je vais te faire voir une vision, tu vas l'écrire ». On sait plus tard que cette vision, c'est que Dieu, effectivement, va agir et qu'il va combattre le mal et le sauver, mais pas tout de suite. Et le Seigneur répond simplement à Habacuc « Attends, attends ». Nous aussi, dans nos vies, nous prions parfois pour que des choses adviennent. Et apparemment, le Seigneur n'agit pas, il nous dit simplement « Attends ». Et ainsi, notre foi s'enracine dans cette attente confiante que malgré ce que nous ne comprenons pas, Dieu mystérieusement agit au cœur même des ténèbres et de la mort. Quand Jésus, à la question des apôtres, augmente en nous la foi, raconte cette drôle d'histoire de la foi. Si vous aviez la foi gros comme une graine de sénévé, une graine de moutarde, cette graine qui est prétendue être microscopique, c'est vrai, elle est microscopique, si vous aviez une foi microscopique, ce qui sous-entend d'ailleurs qu'il est en train de leur dire, en fait, vous n'avez pas la foi. Il suffirait que vous ayez une foi microscopique pour que vous puissiez dire à cet arbre solide, puisqu'on parle en grec d'un sycomore ou d'un mûrier, prétendument aussi des arbres grands, mais des arbres très solides, difficiles à déraciner. Si vous aviez une foi microscopique, donc apparemment celle qu'ils n'ont pas, si vous aviez une foi microscopique, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer. Alors évidemment, il y a une histoire de proportion, c'est-à-dire que la foi est microscopique, mais que la foi, lorsqu'elle est déployée, elle peut faire des choses énormes. Et l'histoire de l'Église est aussi remplie de saints et de saintes qui, à partir de rien du tout, ont commencé à faire changer le monde. Quand on interrogeait Mère Teresa, comment a commencé votre vocation ? Elle a simplement dit, je me promenais dans les rues de Calcutta, j'ai vu un pauvre, j'ai commencé à le soigner. Quelques années plus tard, ce geste si humble, de rien du tout, microscopique, avait déclenché un mouvement énorme. Mais ce qui est intéressant dans l'image de Jésus, c'est de voir derrière cela une symbolique, car Jésus, qui monte à sa passion, choisit ces mots et ces images. Vous savez que l'arbre est toujours dans la Bible le symbole de la vie, l'arbre de la vie. Et même la croix qui sera l'arbre de Jésus, où Jésus sera crucifié, sera l'arbre de la vie. Et donc l'arbre renvoie toujours à la vie. Et la mer, vous le savez certainement aussi dans la Bible, c'est le lieu des ténèbres, le lieu du mal, ce lieu que le Seigneur domine, que Dieu domine, que Jésus même calme lorsque la tempête vient sur les eaux. Cela signifie que par la foi, Dieu peut faire surgir la vie dans les lieux de mort et de ténèbres. Jésus, lorsqu'il évoque ça, est en train de parler de son propre mystère pascal, où au cœur de la mort, il fera naître la vie. Et le cœur de notre foi, le cœur de notre foi comme chrétien, c'est la foi dans le mystère pascal. Comme nous le chanterons tout à l'heure, je dirais, il est grand le mystère de la foi. Après la consécration, à chaque messe, nous le disons, nous le chantons. Et c'est là qu'on fait référence à Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra dans la gloire. Le cœur du mystère de notre foi, c'est ce mystère incroyable où le possible est rendu impossible, la vie étant fécondée à l'intérieur du mystère de la mort. Et voyez ce schéma pascal de la vie qui est plus forte que la mort, il traverse toute l'histoire de l'humanité. Parce que la mort, elle rôde autour de nous. La guerre, notre planète, la création qui souffre, qui souffle, qui s'épuise. Tant de drames autour de nous, depuis l'Iran jusqu'en tant d'autres pays, où des choses difficiles, la marque du mal se dessine et se reconnaît au cœur de nos vies. Eh bien, notre foi, c'est qu'à travers tout cela, comme dans un enfantement, Dieu agit, pas à la manière dont nous voudrions. On voudrait toujours que tout s'arrête. Jésus était capable, au moment de la Passion, d'appeler des légions d'anges pour empêcher qu'on le crucifie. Le Père aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour que le mystère du salut puisse s'accomplir d'une manière qui nous dépasse. Et aujourd'hui, dans l'enfantement du monde, dans l'enfantement du royaume qui se joue sous nos yeux, dans le mal qui s'opère, nous croyons dans la foi, même si c'est difficile, que Dieu ne nous abandonne pas. Et que le mystère de la foi, ce n'est pas d'abord de faire des choses extraordinaires, même si cela est parfois possible, c'est de croire au-delà de ce que nous pouvons saisir et comprendre. C'est pour cela que j'ai choisi cette belle chasuble, quand on m'a dit qu'il y en a plusieurs dans l'Église, cette chasuble de la miséricorde, de la compassion, mais qui est aussi la chasuble de sœur Faustine. Et quand Jésus apparaissait à sœur Faustine, il lui demandait de l'invoquer avec cette phrase que vous connaissez par cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est une phrase que nous sommes appelés à redire avec le cœur chaque jour. Notre foi est si mystérieuse. Vous savez que Peggy fait dire au bon Dieu dans le porche de la deuxième vertu, ce qui m'étonne chez l'homme, c'est l'espérance. Oui, l'espérance est étonnante, mais la foi est étonnante. Pourquoi nous croyons? Peut-être avez-vous des enfants qui ne croient pas, ou inversement des enfants dont les parents ne croient pas. Nous avons peut-être des frères et des sœurs qui sont nés d'un même père et d'une même mère qui ne croient pas. Nous avons des amis chers qui ne croient pas. Pourquoi croyons-nous? La foi ne s'en transmet pas par la naissance ni par le sang. Bien sûr, peut-être avons-nous été baptisés et ce baptême met en nous le germe de la foi. Mais plus grand, nous aurons toujours à ratifier notre foi. La foi n'est pas magique. La foi est un don de Dieu. Certains aspirent à la grâce de la foi et semble-t-il ne l'ont pas. Et nous, parfois, nous laissons mourir ou nous laissons s'endormir notre foi, comme le rappelait saint Paul, « Réveille, ravive le don qui t'a été fait lorsque quelqu'un t'a imposé les mains. » Pour beaucoup d'entre nous, en plus de ceux qui ont été ordonnés prêtres ou diacres, mais on a imposé un jour les mains sur vous dans le baptême et la confirmation. Et ce don extraordinaire qui comprend la foi peut s'endormir. Et tous ensemble, nous sommes réunis et nous confesserons notre foi tout à l'heure pour demander la grâce que notre foi soit réveillée, qu'elle soit ravivée. Car n'oublions pas, chers frères et sœurs, que dans le monde, nous croyants, par grâce, nous sommes ce peuple qui, au nom de l'humanité tout entière, croit que notre monde a un sens, croit que notre destinée a un sens. Quand vous rencontrez des gens non-croyants, je dînais hier avec des gens non-croyants, j'ai senti une angoisse, j'ai senti une peur, j'ai senti un manque de sens. Ils ne me parlaient que des catastrophes qu'ils voyaient devant leur télévision. Et j'étais même un peu compliqué de renvoyer la foi face à des gens qui, au fond, sont assez désespérés. Et nous portons cette responsabilité avec délicatesse, mais avec force, d'être dans notre monde ceux qui croient que Dieu ne nous abandonne jamais. Je termine en disant que cette foi n'est pas seulement de l'ordre d'une attente confiante, car c'est ça vraiment la foi. Quand on a passé des épreuves, quand on ne comprend plus, de dire « Seigneur, je crois ». Mais nous sommes appelés, je termine par cela encore une fois, à avoir une foi active. C'est pour cela que Jésus nous considère comme des serviteurs, mais aussi comme des amis. Car la foi doit opérer par la charité. Nous sommes les serviteurs de Dieu dans l'accomplissement du salut du royaume au cœur de nos vies. Et voyez, quand le Seigneur nous dit que nous ne sommes que de simples serviteurs ou des serviteurs inutiles, on peut mal le prendre en disant « Mais enfin, le Seigneur pourrait avoir plus de considération pour nous. » Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Car si nous n'étions que des gens utiles, nous aurions été créés par intérêt. L'utilité renvoie à l'intérêt. Dieu nous a créés par pure gratuité. Il ne nous a pas créés et il ne nous compte pas sur nous parce que nous serions utiles, mais simplement parce qu'il nous aime. Et enfin, être de simples serviteurs, c'est aussi très libérant, car si nous avions à sauver le monde par nous-mêmes, nous serions écrasés par cette tâche qui nous dépasse infiniment. Nous ne sommes que de simples serviteurs à notre place. C'est libérant, car nous savons que c'est Dieu qui opère par nous, bien modestement, son salut, à condition que nous ayons la foi, c'est-à-dire que notre cœur soit suffisamment ouvert pour que la grâce de Dieu et sa puissance se déploient à travers nous.